Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouidraougo avec vous pour Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, les résultats, les analyses et bien sûr vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Amine Birouk en direct depuis Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Jules Valentin Ngoui est en direct depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Valdo Simo Yamba Yamba nous rejoint depuis Kinshasa en République démocratique du Congo. Valdo, bonsoir. Et nous retrouvons Amdine Si à Dakar. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la Zéro Afrique.
L'Afrique du football pleure l'ancien secrétaire général de la CAF, Amr Fahmy, décédé hier des suites d'une maladie. Dans ces douloureuses circonstances, nous tenons à exprimer nos sincères condoléances à la famille du défunt et plus particulièrement à ses parents, son épouse et sa fille, a écrit donc la CAF dans un communiqué. L'Égyptien a été licencié de son poste à la CAF en avril 2019. Après son départ, Fahmy a accusé Ahmad, président de la CAF, de corruption, détournement et harcèlement sexuel. Des affaires qui sont toujours pendantes sur la table de la commission d'éthique de la FIFA. En fin d'année dernière, il a annoncé sa candidature à la présidence de la CAF pour 2021 sous le slogan « Parce que l'Afrique mérite mieux ». Amr Fahmy était aussi connu pour être le fils de Mustapha et petit-fils de Mourad et aussi ancien secrétaire général de la CAF. Alors Amine, Amr Fahmy est décédé. Qu'est-ce qu'on retiendra de l'ancien secrétaire général de la CAF?
On retiendra qu'il est issu d'une lignée de secrétaires généraux de la CAF. Son grand-père, Mourad Fahmy, a été un des fondateurs et le premier secrétaire général de l'institution. Son père, Mustapha Fahmy, a été pendant près d'un quart de siècle l'inamovible secrétaire général de la CAF. Et lui-même s'était destiné pour cette fonction. Il a également fait un apprentissage dans le monde de l'audiovisuel et du marketing sportif à travers sa présence dans un groupe média bien connu, lié à la CAF pendant de très nombreuses années et qui est aujourd'hui l'objet d'une dénonciation de contrat. Et puis, naturellement, lorsqu'il y a eu la transition entre Issa Hayatou et Ahmed Ahmed, il a intégré cette institution africaine qu'il connaissait à travers ce poste de secrétaire général. Néanmoins, divergence d'opinion, peut-être incompatibilité d'humeur ont abouti à ce divorce et puis à ces sorties médiatiques, à ces divulgations, ces révélations qui en ont fait pendant un moment un candidat crédible à la présidence de la Confédération africaine de football. Néanmoins, il fallait qu'il soit parrainé ou coopté par une fédération nationale. Avait-il le soutien de celle de son pays, dans la mesure où un des membres du comité exécutif de l'AFCAF est l'Égyptien Hani Aborida, qui a été président de la Fédération égyptienne de football jusqu'à la fin de la CAN, et qui n'était pas véritablement dans le même ordre d'esprit que Amr Fahmy. Aujourd'hui, Amr Fahmy nous quitte à l'âge de 34 ans. Il sera passé à la tête au secrétariat général de l'AFCAF comme un météore. Il aura duré 18 mois. On espère que les révélations qu'il a permis de ou qu'il a donné, qu'il a livré à l'instance éthique de la CAF, aux médias, permettront aujourd'hui une plus grande transparence dans l'instance du football africain. Au moins, il aura contribué à sa façon, peut-être même involontairement, à ce que les process de la Confédération africaine de football soient plus transparents et que celle-ci redevienne cette institution crédible que son grand-père et que son père ont dirigée de l'intérieur.
Merci Amine Birouk. Alors Jules, Amine le disait si bien, le grand-père d'Amr Fahmy a été secrétaire général de la CAF de 1961 à 1982. Après c'était le règne du père d'Amr Fahmy, ça a été lui aussi son tour entre-temps. Qu'est-ce qu'on retiendra de l'ancien secrétaire général de la CAF? Celui qui n'a pas su perpétrer la tradition dans leur famille ou celui qui a surtout fait des révélations sur la gestion de la CAF par le malgache Ahmad Ahmad?
Oh, mais là, il faut aussi savoir qu'il représentait un pays très influent au niveau de la CAF, un membre fondateur de la CAF et qui est particulièrement influent, l'Égypte. Bon, donc, nous pouvons dire que de toutes les manières, ces enfants de la base qui le plus souvent ont gravité autour de leurs ascendants, qui ont occupé certains postes, ont un avantage, celui de connaître parfaitement le milieu et les dossiers. Bon, mais maintenant, tout dépend de la personnalité qui arrive et je crois que malgré tout cela, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, dans d'autres continents, l'Afrique va commencer aussi à apprendre que les hommes passent, mais les institutions restent. Il faut surtout garder les institutions saines et c'est ça l'essentiel.
Merci Jules Valentin Ngwe. Vous suivez Sporama, suivez Afrique. Nous revenons tout de suite. Les matchs allés des quarts de finale des compétitions africaines interclubs se jouent en fin de cette semaine. Le Raja Casablanca affronte les Congolais du tout-puissant Mazembe, triple vainqueur de la compétition. Le club de Lubumbashi aura du pain sur la planche, il faut le reconnaître, face au Raja, qui a également soulevé le trophée continental à 3 reprises. Alors Amine, je vous reprends, on le sait, c'est l'une des affiches hein, les plus intéressantes, mais aussi les plus attendues. Comment ce match se prépare du côté de Casa?
Déjà, du côté de Casablanca, on était dans une période de crispation parce que la Ligue de football professionnel ne voulait pas reporter un match du Raja de Casablanca qui était programmé pour ce soir. Et il a fallu un véritable bras de fer et l'intervention du président de la fédération pour que cette rencontre soit décalée de façon à ce que le Raja puisse se préparer à égalité de chance avec le TP Mazembe qui est arrivé cet après-midi à Casablanca. C'est un classique aussi du football africain dans la mesure où ce sont deux anciens tenants du titre. Le TP Mazembe a une plus grande tradition lors des dernières années puisqu'il a été souvent présent en première loge dans cette compétition, alors que le Raja n'a plus franchi le cap du premier tour depuis l'année 2004. Donc c'est un retour du Raja de Casablanca à ce niveau de la compétition. Il y a peut-être un manque de vécu, parce que visiblement, pour gagner la Champions League ou être présent régulièrement dans le dernier carré de la compétition, il faut l'avoir fréquenté pendant plusieurs années pour pouvoir connaître les contours, les dangers, surtout ces périodes difficiles, ces zones de turbulence qui font le charme des compétitions africaines. Le Raja de Casablanca est en train de récupérer ses blessés, et c'est le plus important parce qu'il compte sur la présence d'un Metouli, d'un Afili, pour apporter un minimum de créativité. Il est vrai que pendant de très nombreuses semaines, l'effectif a été décimé pour cause de présence sur 3 fronts différents, et avec un effectif assez raccourci, un banc de touche qui n'est pas profond. Le Raja peut souffrir, mais il a un gros coup à tenter, d'autant plus que le TP Mazembe n'est pas coutumé de réussir en terre marocaine. Lorsqu'il se déplace, il n'a jamais réussi à obtenir des résultats probants. Donc le Raja doit assurer un bon résultat à Casablanca, surtout ne pas encaisser de but dans l'optique d'un match retour qui sera terrible à Lubumbashi.
Alors, Valdo, le tout-puissant Mazembe a réussi sa phase de poule, même si Amil le disait si bien aussi. Le TP a souvent du mal en terre marocaine.
Je vais être là où il n'y aura pas de bruit.
Ok, donc Valdo qui nous dit qu'il va se déplacer pour être là où il y a moins de bruit. Et donc, on va vous reprendre plus tard. Alors, Jules, Amil le disait, le tout-puissant Mazembe réussit difficilement en terre étrangère, sauf que pendant la phase de poule, les Congolais, les corbeaux de Lubumbashi, on va dire, ont réussi parfaitement cette phase de poule-là.
Oui, surtout que la sérénité est revenue à Lubumbashi depuis la fin des problèmes politiques de son président et grand mécène. Et donc, on a, une équipe qui a envie de revenir automatiquement au premier plan, qui a reculé un peu ces dernières années et qui a les deux bagages qu'il faut pour le faire. Mais en face, le Raja, c'est une équipe marocaine et les équipes marocaines ont souvent beaucoup plus de chances que les autres équipes d'Afrique du Nord quand elles rencontrent les équipes au sud du Sahara, car elles allient les qualités du sud du Sahara avec leur technique collective et la qualité individuelle des joueurs d'Afrique du Nord.
Merci. Jules Valentin Ngwe, on ne sait pas si Valdo a réussi à se mettre dans un endroit assez calme. Valdo, vous m'entendez? Et donc, on parlait tout à l'heure, apparemment ce n'est toujours pas calme, Valdo, donc on va vous reprendre plus tard. De son côté, le club le plus titré 8 fois à la Ligue d'Égypte jouera contre Mamelodi Sundowns, les Sud-Africains, vainqueurs de l'édition 2016. Alors, Amdine, les Égyptiens dans la Ligue ont atteint la dernière journée, ont décroché, disons, leur ticket lors de la dernière journée, difficilement face à Al Nassr du Soudan. Cette fois, c'est une double confrontation. Est-ce que l'effet phase à élimination directe pourrait tout changer pour Al Ahly?
Oui. Yacouba, comme vous le savez, Al Ahly est un club très titré. Al Ahly connaît créé cette compétition. Ils savaient qu'en match de poule, il faut négocier pour sortir. Mais maintenant, c'est une autre compétition qui commence parce que c'est des matchs à éliminatoire direct. Donc, ils vont quand même essayer de négocier ça à merveille. Surtout la première match qui est très importante. Je pense qu'Al-Ahly peut s'en sortir. Mais attention aux Sud-Africains, puisque c'est un match piège également, puisque les Sud-Africains et les joueurs du tout font ça à merveille. C'est deux tours seulement qui représentent tout le reste du continent, puisque les six autres équipes nous viennent quand même du Maghreb. Donc ce sont ces deux équipes qui vont essayer quand même de jouer les troubles faits pour empêcher au club maghrébin de gagner à nouveau cette Ligue africaine des champions. Donc c'est un match piège pour Al-Ahly, mais je pense que Al-Ahly part avec la faveur des pronostics Yacouba.
Alors, Jules, les Égyptiens d'Al-Ahly, Amdine, le disait tout à l'heure, partent avec la faveur des pronostics, sauf que Mamelodi Sundowns a été beaucoup solide durant la phase de poule. Quoi qu'on dise, ça ne serait pas simple pour les Égyptiens.
Oui, ça c'est un match entre deux équipes qui sont des candidats et potentiels au titre final. Et je crois que dès cette phase de premier match à élimination directe, celle qui va passer cette étape peut se retrouver peut-être finalement dans le dernier carré, non même pas dans le dernier carré, mais au dernier match de la compétition. Alors, les Sud-Africains ont un élément fondamental qui joue à ce niveau, c'est que c'est une équipe qui a des automatismes et qui joue très collectif. Et maintenant, dans une situation comme celle-là, ce qui fait la différence, en fait, c'est le réalisme et la lucidité dans la surface de réparation et savoir concrétiser les occasions. Donc, c'est ça qui fera la différence. Mais pour moi, les deux équipes vont à égalité, c'est du 50-50.
L'Espérance de Tunis, championne en titre, affronte le Zamalek d'Égypte. Alors, Amine, le Zamalek est sorti vainqueur de la Super Coupe CAF à Doha au Qatar face à cette même équipe de l'Espérance de Tunis. On le rappelle, double vainqueur en titre de la Ligue des Champions. Alors, les Tunisiens ont bien une revanche à prendre cette fois-ci.
Une belle revanche à prendre, mais le match aller aura lieu en Égypte. On rappelle que le Zamalek a reçu une victoire à Doha au Qatar lors du match de Supercoupe et que les Égyptiens ont le vent en poupe dans la mesure où ils ont gagné aux Émirats Arabes Unis. Quelques jours plus tard, la Supercoupe d'Égypte face à Al Ahly au tir au but. Le Zamalek est un club très controversé avec un président qui ne laisse personne indifférent. D'ailleurs, aujourd'hui en championnat, il a décidé de déclarer forfait contre Al Ahly étant donné les sanctions que la fédération égyptienne ou la commission provisoire qui gère le football égyptien a émis envers les joueurs des deux clubs, notamment les joueurs du Zamalek. Donc c'est un contexte terrible, un contexte différent. Les Tunisiens viendront avec un esprit de revanche, mais il faut aussi rappeler que la configuration de cette confrontation n'est pas la même que celle de Doha. Celle de Doha au Qatar s'est déroulée sur un seul match, 90 minutes plus les extra times en cas d'égalité. Là, on joue sur deux manches, avec une manche retour à Rabès, et en général, les Tunisiens sont intraitables à domicile. Donc il va falloir que les Égyptiens jouent aussi bien qu'au Qatar, qu'ils ne concèdent pas de but et surtout qu'ils se montrent efficaces lors de leurs offensives avant d'aborder un match retour qui sera totalement différent puisqu'à Tunis, il y a un public qui sera derrière l'Espérance de Tunis et surtout une équipe revanche.
Alors, Valdo, il y a encore un match dans ce match. C'est celui entre les deux coachs, Patrice Cantillon du Zamalek et Moine Chabani de l'Espérance. Le Français a réussi à prendre le dessus sur le Tunisien à deux reprises, avec le Raja d'abord en Super Coupe CAF l'année dernière, et ensuite avec le Zamalek en Super Coupe CAF encore cette année. Et donc, quoi qu'on dise, Moine Chabani doit se ressaisir. Valdo, vous m'entendez? On a du mal avec Valdo, je pense qu'on va le reprendre un peu plus tard si tout cela se calme. Alors Amdine, je le disais, il y a un match dans ce match-là, c'est celui entre les deux coachs, Patrice Carteron du Zamalek et Moine Chabani. On va rappeler que le Français a pris le dessus sur le Tunisien à deux reprises dans les deux dernières Supercoupes d'Afrique, d'abord avec le Raja en 2018, la Supercoupe d'Afrique bien sûr 2018, et puis avec le Zamalek lors de la Supercoupe dernière donc au Qatar 2019. Moine Chabani reste jusque-là, peut-être, en fait, Patrice Cateron reste jusque-là la bête noire du Tunisien.
Oui, parce que Patrick Cateron, c'est un technicien français, peut-être, mais il connaît très bien quand même le football africain pour avoir quand même coaché non seulement des clubs africains, mais également des clubs. C'est pour cela qu'il est très expérimenté, il connaît bien les clubs africains et il sait comment faire pour négocier ces genres de matchs. Je pense que, bon, ce sera la bête noire à tuer de l'autre côté, mais Patrick Cateron essaiera quand même de faire tout pour conserver quand même son invincibilité par rapport à son adversaire, puisque c'est un entraîneur expérimenté, Yacouba.
Toujours en quart de finale de cette Ligue des Champions, le Wydad de Casablanca fera face aux Tunisiens de l'Étoile du Sahel. Amine, les Marocains reçoivent une équipe de l'Étoile avec son nouvel entraîneur.
Et une équipe du Tunisien qui a le vent en poupe puisqu'elle a gagné son match de championnat sur le score de 5-1, alors que le Wydad de Casablanca est en train de peiner en ce moment. L'équipe du Wydad est certes leader du championnat du Maroc, mais sur les trois derniers matchs, elle n'a pu réussir qu'un seul petit point. Deux défaites lors des deux dernières rencontres de championnat, un fond de jeu inexistant, de nombreuses blessures et un entraîneur, le deuxième de la saison, qui est remis en cause par les supporters et même par le comité du club. Donc Sébastien De Sabre est sur un siège éjectable. Celui qui pourrait lui succéder en cas d'échec au match aller à Casablanca s'appelle Juan Carlos Garrido. Il a déjà entraîné l'Étoile du Sahel en début de saison. Il pourrait faire un excellent remplacement dans la mesure où il a déjà officié à Casablanca, mais dans l'autre club, le club rival de Raja de Casablanca. Donc c'est une zone de turbulence que traverse le Wydad de Casablanca, le finaliste de l'édition 2019, qui n'est pas aujourd'hui dans les meilleures prédispositions possibles avant ce quart de finale. Mais on ne sait jamais si cette semaine se passe bien sur le plan de la préparation mentale, si les joueurs qui ont invécu dans cette compétition se remobilisent, ils sont capables de réussir un coup face à une équipe tunisienne qui est actuellement bien meilleure sur le plan des dispositions morales, physiques et techniques depuis qu'elle a changé d'entraîneur et qu'elle a pris une direction totalement différente de celle prise en début de saison.
Toujours sur le continent, le dimanche 1er mars offre les oppositions aller en quart de finale de la Coupe CAF, finaliste malheureux lors de l'édition dernière. La Renaissance sportive de Berkane fera face au club tunisien d'Al-Masri, au club égyptien d'Al-Masri. Alors Amine, de nombreux observateurs estiment que les Marocains partent avec les faveurs des pronostics face aux Égyptiens. Un peu fébrile, est-ce votre avis?
Sur le papier, c'est jouable pour la Renaissance sportive de Berkane dans la mesure où elle joue son match retour au Maroc devant son public et elle a pour habitude dans la compétition africaine de se montrer assez intraitable à domicile. Mais c'est aussi un club qui passe par une période de faiblesse. De gros points d'interrogation se posent sur cette équipe qui n'a plus gagné depuis 6 matchs. Et puis, les Égyptiens sont en concentration depuis une semaine. Ils ont rassemblé 30 éléments pour pouvoir disputer cette rencontre. Il y avait des doutes sur le lieu de leur organisation. Finalement, la rencontre aura lieu à Suez et non à Port Saïd. Et donc on verra dans quelle mesure cette rencontre qui se déroulera avec un public limité, étant donné la situation politique en Égypte, dans quelle mesure l'équipe de Berkane, qui ne sera pas dans un contexte hostile, pourra s'en sortir. Visiblement, il y a du talent sur le plan individuel, il y a un vécu collectif au sein de cette équipe de la Renaissance de Berkane et ce sont des éléments qui seront non négligeables au moment d'affronter le club égyptien.
Alors, Amdine, Oroya de la Guinée croise les crampons avec le club nigérien Djenimba. Oroya a certes dominé ses adversaires dans la phase de poule et devra être encore plus costaud face aux Nigériens.
Tout à fait, parce que c'est un quart de finale 100% ouest africain, donc c'est deux équipes qui se connaissent qui vont se rencontrer. Certes, Oroya a dominé de la tête et des épaules quand même les matchs de poule, mais comme je l'ai dit tantôt, les matchs à éliminatoire direct, c'est autre chose. Hein. Il faut savoir négocier les deux matchs parce que la première match, c'est une sorte de mi-temps et la deuxième mi-temps se jouera lors de la seconde match. Donc, il faut savoir les négocier. Oréa a des ambitions avec le nouveau coach Lamine Diaye qui est l'ancien sélectionneur du Sénégal qui commence à faire de très bons résultats avec cette équipe qui est non seulement leader de son championnat, mais qui a été leader de son groupe au niveau des éliminatoires. à une entente grecque et Eyma, on le sait, les Nigériens ont été toujours des adversaires très redoutables, surtout pour les équipes qui viennent du Sénégal, du Mali et de la Guinée. Donc c'est un match à négocier d'abord. Il faudra pour les Guinéens de Conakry bien négocier la première manche avant d'essayer de décrocher la qualification lors du match retour Yacouba.
Alors, Jules, on le sait, les Nigériens d'Enyimba ont un peu peiné dans la phase de poule. Cette fois-ci, c'est une double confrontation et donc un match à élimination directe. Est-ce que l'effet de cette double confrontation-là pourrait peut-être un tout petit peu jouer en faveur des Nigériens?
Oui, il faut dire que, disons qu'ils jouent en faveur des Nigériens, mais si on pense à Enyimba, l'équipe d'Enyimba qui disputait les finales de Ligue des Champions il y a quelques années, et il faut savoir que celle-ci est plutôt de retour au niveau de à ce stade de la compétition. Et en fait, la balance me semble pencher un peu plus au profit de Doria, qui est monté en puissance année après année, qui est passé d'un palier à l'autre et qui, ma foi, donne un peu plus d'assurance actuellement. Mais étant donné que dans cette configuration, Enyimba se retrouve en position d'outsider, c'est une bonne chose à prendre dans la mesure où on a moins de pression et que, surtout, à partir du résultat du match aller, on peut créer une situation difficile à remonter pour l'adversaire.
De son côté, Zanaku, qui a arraché sa qualification lors de la dernière journée de la phase de poule, tentera d'en découdre avec les Égyptiens de Pyramide FC, Amine, un autre club marocain. Hassania Agadir défiera les Libyens d'Anas Benghazi.
Et l'équipe de Hassania Agadir est paradoxale depuis le début de la saison. Il est vrai qu'elle passe par une période de doute depuis l'élection de l'entraîneur Gamondi, choix qui n'a jamais été accepté par le public. Aujourd'hui, c'est une équipe qui vit une période transitoire. Elle a été brillante en phase de groupe de la Coupe de la CAF jusqu'à la cinquième journée, avant de s'effondrer face aux Algériens de Parado lors d'un match qui n'était qu'une simple formalité, puisque le club était qualifié et premier de son groupe. Il va falloir se remobiliser dans la mesure où l'équipe libyenne n'est pas là par simple accident. C'est une équipe qui ressemble à toutes les formations libyennes, rugueuse, rigoureuse, avec peut-être peu de moyens ou peu d'individualité, mais elle est capable à tout moment de faire, de créer la surprise, d'autant plus que le match aller se déroule au Caire, en Égypte, dans un contexte qui sera plus favorable aux Libyens. Mais visiblement, ce match se jouera sur des détails et la confrontation retour à Agadir sera peut-être décisive pour la qualification du club marocain qui a été la saison dernière une des révélations de la Coupe de la CAF et qui n'avait été éliminé par le tenant du titre Zamalek que sur un petit but et lors d'une rencontre il y avait beaucoup de contestations au niveau de l'arbitrage.
Merci Amine. Alors Amdine, on va évoquer avec vous le tournoi de boxe qualificatif aux Jeux Olympiques 2020 qui se déroule présentement à Dakar.
Tout à fait, Yacouba. C'est un tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques de Beijing. Ça a démarré depuis le 20 et ça se termine le 29 février. Ça se déroule à Dakar Arena. C'est la salle de basket flamande que le Sénégal a accueilli. Donc ce tournoi se passe bien. Si le Sénégal est en train de relever le défi de l'organisation, ce n'est pas le cas pour le défi de la participation, puisque le Sénégal avait les deux ont été éliminés pour des problèmes administratifs et les deux ont été également sortis suite à des combats préliminaires. Il s'agit de Momo Ndiaye et de Massar Sambou. Donc ça ne va pas très fort pour les boxeurs sénégalais, mais le tournoi se poursuit en ce moment, Yacouba, à Dakar Arena au Sénégal.
Alors, très rapidement, on évoque toujours avec vous, en 30 secondes, la troisième édition du Gala des meilleurs sportifs des sports 221, un journal en ligne dont vous êtes le promoteur.
Tout à fait, ce sera demain à l'hôtel de Théorie, la troisième édition. Sadio Mané, qui est le ballon d'or africain, a été élu par les lecteurs de sport 221, sportif de l'année, la personnalité sportive de l'année. Donc, il sera récompensé demain. Il y aura d'autres dirigeants comme Olivier Clément, le président de la Fédération sénégalaise de football, qui est le manager sportif de l'année. En fait, il y a quoi, ce sera une très belle fête pour les sportifs que initiés par le sport 221.
Merci bien, Amdine Si, à Dakar, Sporama, qui s'achève ici. Devant ce micro, Yacouba Ouedraogo, Michel Joseph à la réalisation. Tout de suite, une nouvelle édition du journal avec Abdourahmane Dia. On se retrouve la semaine prochaine.